grand angle.
Vous êtes bien sur Radio Orient, c'est le grand angle de ce jour, cela fait cette semaine. 30 ans, Yasser Arafat devenait président de l'autorité palestinienne. Yasser Arafat reste une figure centrale de l'histoire du Proche-Orient. Son héritage résonne aujourd'hui de manière particulière, hein, alors que la région traverse l'une de ses périodes les plus sombres, entre guerre à Gaza, violence en Cisjordanie. Dans ce contexte, la Maison-Blanche a désigné vendredi un premier organe exécutif chargé d'engager la phase 2 d'un plan de processus de paix. Notre invité, Jean-Paul Chagnolo, professeur émérite des universités, président honoraire de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Soyez le bienvenu. Tout d'abord, sur ce plan Trump, Israël et le Hamas ont encore tout à négocier dans les mois à venir avec l'entrée en vigueur de cette phase 2. Le désarmement du Hamas et le retrait de l'armée israélienne, tout comme le déploiement d'une force internationale de stabilisation. Cette phase 2 sera-t-elle plus difficile à mettre en œuvre que la première?
Je crois qu'effectivement, la phase 2 pose toute une série de questions. C'est ce que vous avez évoqué. Il y a la question de la gouvernance qui est en train d'être, qui avance, c'est-à-dire un conseil de la paix et puis un comité exécutif où il y a des personnalités palestiniennes. Il y a la question du désarmement et du retrait de l'armée israélienne. Et puis, il y a cette aussi possible intervention d'une force de stabilité internationale dont pour l'instant on ne voit rien. Donc ça, c'est un peu les points théoriques, mais avant de continuer, il faut bien comprendre que sur le terrain, il se passe beaucoup de choses, c'est-à-dire au-delà des négociations qu'on peut voir. Sur le terrain, les Israéliens sont en train d'installer leur emprise. Comme vous le savez, au terme de cette première phase, ils ont conservé le contrôle d'environ 50-55% du territoire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les 2 millions et 2 de Palestiniens sont tous obligés d'être dans la partie qui reste, c'est-à-dire 45%. Donc déjà, ça c'est une réalité concrète. Autrement dit, il y a des faits accomplis en ce moment. Il y a aussi la volonté de reconstruire d'abord dans la partie occupée par l'armée israélienne. Autrement dit, il y a d'un côté le débat sur les thèmes qu'on vient d'évoquer, puis il y a une réalité pressante sur le terrain où l'armée israélienne contrôle beaucoup de choses.
L'armée israélienne qui pourrait quitter la bande de Gaza, quelles seraient les conditions pour qu'elle l'accepte?
Pour l'instant, je ne vois pas l'armée israélienne quitter, pas simplement la bande de Gaza, mais la partie de Gaza qu'elle occupe concrètement et sur laquelle il y a des projets fonciers qui sont en train d'être étudiés avec les Américains. Donc c'est ça la question. Théoriquement, elle devrait se retirer, l'armée israélienne, mais il n'y a pas de calendrier. Et de toute façon, elle doit conserver, selon le plan Trump, une sorte de corridor de sécurité, je mets des guillemets à ce terme, qui prend quand même au moins 10% du territoire de Gaza. Donc vous voyez, on est dans cette espèce de contradiction où il y a un plan, mais il y a aussi une réalité concrète qui façonne le territoire aujourd'hui. Et par exemple aussi, pour être très concret, il y a le fait que sur la partie qui reste aux populations palestiniennes, ces 2 millions de Palestiniens, eh bien, on empêche encore l'aide humanitaire d'arriver, puisque une bonne trentaine d'organisations comme MSF et bien d'autres n'ont plus le droit de travailler à partir du mois de février. Donc on est dans cette contradiction-là. Ça, c'est, disons, mes premières remarques. Et on pourrait, si on en vient à ce que vous évoquez sur la deuxième phase, le Conseil de la paix, pour l'instant, ce qu'on en sait, ce qui a été annoncé, c'est en fait une sorte de tutelle, non pas internationale, mais américaine, puisque c'est Trump qui la préside. Il y a Marc Rubio aussi, il y a Kouchner, qui
est le secrétaire d'État, oui.
Il y a aussi Tony Blair. Donc on est dans une sorte de tutelle américano-britannique, ou en tout cas américaine surtout, ce que Blair ne fera que ce qu'on lui dira de faire. Eh bien, on n'est pas du tout dans une internationalisation. Donc que va décider ce conseil américain? C'est quand même une question majeure. Donc vous voyez, on est dans le flou le plus complet. Et derrière ce flou très complet, on est dans un rapport de force très, très, très évident, qui est en fait, les Israéliens continuent de contrôler l'essentiel. Ils ne sont même pas d'accord avec ce qui va se passer avec le Conseil de la paix. Donc c'est ça. Il faut bien comprendre en résumé deux choses. Un, il y a des débats comme ceux qu'on évoque, et deux, il y a une réalité de terrain qui s'impose.
Et la réalité de terrain, vous l'évoquez, l'interdiction des organisations humanitaires dès février prochain. Comment évolue la situation humanitaire à Gaza? Elle est nettement moins mise en lumière aujourd'hui.
Dans la réalité concrète, qu'est-ce qu'il y a? Il y a interdiction, il y a par exemple des dizaines de milliers d'abris préfabriqués qui sont en Égypte et qui voudraient pouvoir être installés à la place des abris de fortune et des tentes qui s'envolent sous la pluie et le vent. Eh bien, même ça, les Israéliens n'en veulent pas pour le moment. Donc, il y a des bras de fer de ce type. Donc, les conditions de vie aujourd'hui et 2 millions de Palestiniens sont extraordinairement préoccupantes. Il y a rien de décisif qui n'a été fait. Et ils survivent, ils ont beaucoup de résilience. Il y a même des cours à l'université qui ont repris dans des conditions invraisemblables, mais qui ont repris justement parce qu'il y a une résilience. Donc on est vraiment dans une phase où on risque dans un statu quo qui dure, car je rappelle que le plan Trump n'a aucun calendrier, alors que par contre, ce que les Israéliens ont le leur, et les Américains l'accompagnent très largement. Donc il ne faut pas avoir l'illusion qu'il y a une internationalisation avec un plan qui se mettrait en place. Il y a en fait, comme je le disais, une américanisation, et en fait une américanisation qui est très proche de ce que veulent les Israéliens. Donc on est très très loin d'une évolution sérieuse de la situation sur le terrain, malheureusement.
Et dans ce contexte, un anniversaire, cela fait cette semaine 30 ans ce mardi, l'accession au pouvoir de Yasser Arafat. Que représente-t-il aujourd'hui dans la mémoire palestinienne, mais aussi dans le regard israélien, notamment à travers les événements en cours?
C'est un personnage qui a marqué évidemment l'histoire des Palestiniens. Et puis, il faut dire aussi qu'il avait réussi malgré tout quelque chose d'unique, c'est-à-dire réaliser une relative unité politique palestinienne. Elle n'a jamais été complète, il a toujours été contesté, y compris par le Hamas qui n'a jamais appartenu à l'OLP, dont il était le patron, mais au moins il avait cette capacité de gérer des contradictions. Or, depuis sa mort, il est clair que c'était en 2004, eh bien, depuis sa mort, les divisions palestiniennes n'ont cessé de s'aggraver. Et le grand drame des Palestiniens, c'est leur profonde division. Arafat avait réussi à surmonter, en tout cas en partie, ces divisions. Quant aux Israéliens, pour ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, c'est un personnage qui a toujours été considéré comme un terroriste, et même du temps où il négociait avec lui. Et en fait, sa mort a, au contraire, leur a permis de continuer leur domination. Je crois que en Israël, la plus grande partie de la population a oublié Arafat, ou c'est même un mauvais souvenir pour eux. Et voilà, donc c'est malheureusement une époque terminée, parce qu'avec Arafat, il y avait une possibilité qu'il a peut-être lui aussi loupée, c'est-à-dire, je pense à Oslo, mais c'était il y a 30 ans. Vous voyez, on est vraiment très loin de tout ça aujourd'hui. On a tourné le dos à toutes ces possibilités de dialogue qu'à un moment donné, en tout cas, Arafat a incarné.
Vous pensez à Oslo, un espoir de très courte durée. Il est tombé dans certains pièges, Yasser Arafat, à ce moment-là, juste après.
Vous savez, il y a eu d'autres négociations quand même malgré tout après, mais c'est vrai que Arafat a... Alors c'est très difficile à dire, surtout en quelques phrases comme ça, mais il porte forcément une responsabilité dans l'échec des accords d'Oslo, en particulier dans la dernière phase, c'est-à-dire en l'an 2000, lorsqu'il y a eu des négociations avec les paramètres Clinton et puis les négociations de tabac. Là, il y avait une petite porte ouverte. Elle n'a pas été prise, cette possibilité. Donc, il a ses responsabilités aussi, mais la configuration de l'époque aussi était très complexe. Et ça nous renvoie à la deuxième intifada qu'il a aussi voulu. Donc, il y a beaucoup de contradictions.
Avec une autorité palestinienne qui était nettement plus puissante qu'aujourd'hui.
Oh, elle n'a jamais été vraiment puissante, vous savez, l'autorité palestinienne. Sauf au tout début, lorsqu'elle a été élue, quoi. Il y avait une légitimité et une dynamique. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et depuis, et en particulier depuis la mort d'Arafat, j'insiste, c'est terminé. Et en fait, moi, la dernière fois que je suis allé voir Arafat, c'était en 2002-2003, c'était à Moukata. Donc, c'était le patron de l'autorité palestinienne. On était encore dans cette seconde intifada dévastatrice, et il était complètement perdu. Il n'avait aucun pouvoir. Il attendait beaucoup des Américains. Les Américains n'ont rien fait. Cette histoire se termine. À mon avis, tout s'est bloqué à partir de la seconde intifada, c'est-à-dire ces années 2002-2003 qui ont été terribles pour les Palestiniens, pour les Israéliens aussi. En tout cas, c'est là qu'un chapitre se termine et un autre s'ouvre, c'est-à-dire celui de la domination israélienne à tous égards, et surtout de la radicalisation en Israël, dont on a vu les effets, en particulier dans la guerre qui n'est toujours pas terminée à Gaza.
Un grand merci, Jean-Paul Chagnolo.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes professeur émérite des universités, vous êtes le président honoraire de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages liés à la situation au Proche et au Moyen-Orient. Merci à vous, chers auditeurs, et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio-Orient.
C'était Grand Angle.